Vous êtes sur RTL.
RTL, il est 10h. Les infos avec Yann Boucherie. Bonjour Yann.
Bonjour Michel, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. À la une, la fronde des catholiques pratiquants. Plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui en France pour réclamer le retour des offices religieux. Nous serons à Nantes dès le début du journal où aura lieu un rassemblement dans une demi-heure. À Joinville-le-Pont, une enquête a été ouverte suite à la fête clandestine qui a rassemblé 300 personnes vendredi soir. Un participant était positif au Covid. Les policiers agressés ont porté plainte. Nous ouvrirons le dossier des violences faites aux femmes dans le sport. La Fédération française de judo est secouée par plusieurs affaires, notamment d'abus sexuels. Dossier complet à suivre. Et puis, le football. L'équipe de France s'impose 1-0 au Portugal et se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Nations à l'automne prochain. La météo avec vous, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
5 départements placés en vigilance orange.
Oui, entre le Finistère et le Pas-de-Calais pour un risque de vagues submersives. Ce sera le cas surtout cet après-midi en fin de journée. Les vagues atteindront 6 à 7 mètres sur le littoral. Donc en plus, c'est accentué par les grandes marées. Donc on a un risque de surcote. Évidemment, lié à tout cela, une dégradation avec de grosses pluies actuellement entre la Vendée et les Hauts-de-France. Beaucoup de vent à l'arrière. Les rafales atteindront 120 km/h sur les côtes, 90 dans les terres. Des pluies et du vent qui vont gagner donc le nord, le bassin parisien, les régions centrales ou encore le bord. Bordelais dans l'après-midi et pendant ce temps-là, dans l'Est et dans le Sud, il fera encore assez beau, même si on a quelques entrées maritimes toujours qui persistent. En Languedoc, les températures restent douces. 16 degrés à Lille et à Gap cet après-midi, 17 à Paris, à Dijon et Poitiers, 18 à Lyon, 19 degrés pour Auxerre, 20 degrés à Toulouse et 22 degrés à Tarbes.
Merci Valérie.
RTL, le 10h avec Yann Boucherie.
Toujours pas de messe ce dimanche en raison de l'urgence sanitaire et du confinement. Une situation qui est dénoncée par une partie des catholiques pratiquants. Ils réclament le retour des cérémonies religieuses. Ils étaient ainsi plusieurs dizaines à manifester hier devant la cathédrale Saint-Pierre de Rennes. Et d'autres rassemblements sont prévus aujourd'hui à Bordeaux, Lyon ou Nantes. Nantes où vous vous trouvez pour RTL. Nicolas Bobby, bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas devant la cathédrale mais sous la pluie.
Oui, absolument. Sous la pluie, on peut dire que les écluses célestes se déchaînent. La pluie, la tempête. Alors, je suis en fait sur la place du Théâtre Gralin. La manifestation autorisée devrait débuter dans une demi-heure. Les premiers croyants masqués s'abritent justement sous l'entrée du théâtre. Ce rassemblement a été interdit par la préfecture sur le parvis de la cathédrale, tout simplement parce qu'il est clôturé depuis l'incendie du 18 juillet dernier. Son recteur, le père Hubert Champenois.
Il y a des mouvements d'humeur, voire peut-être de colère d'un certain nombre de chrétiens. C'est lundi que le ministre de l'Intérieur rencontrera des délégués de l'Épiscopat. Continuons le dialogue avec les responsables de l'État pour que cette question des rassemblements puisse évoluer assez rapidement.
Aujourd'hui, c'est la journée du secours catholique. Le prêtre célébrera l'Eucharistie dans une heure avec l'évêque de Nantes en direct sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup Nicolas Bobby à Nantes et sous la pluie pour RTL. À Paris, la préfecture de police elle a annoncé l'interdiction d'un rassemblement prévu devant l'église Saint-Sulpice. Une manifestation s'est déjà déroulée vendredi et elle a donné lieu à des prières dans la rue sans respect des distanciations sociales et des gestes barrières. RTL, 10h03 à Joinville-le-Pont. Une enquête a été diligentée par la Sûreté départementale du Val-de-Marne au lendemain de la fête clandestine qui a rassemblé vendredi soir plus de 300 personnes dans un mépris total des règles sanitaires. Il s'agit d'identifier bien sûr les organisateurs ainsi que le propriétaire des lieux puisque les policiers qui sont intervenus n'ont pas pu procéder à des interpellations et pour cause. Le récit de Julien Chénardy, le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Val-de-Marne.
Ils ont pu au début pénétrer dans le bâtiment. Les participants n'ont pas forcément tout de suite reconnu les fonctionnaires de police alors qu'ils étaient pourtant porteurs de leurs signes apparents. La musique était assourdissante. La plupart des participants étaient totalement alcoolisés, pour certains drogués. Lorsqu'ils se sont aperçus que des policiers étaient à l'intérieur, ça a commencé à être la bronca à leur encontre. Donc, comme je dis, voilà, ils leur ont jeté tout un tas de projectiles. Mes collègues ont dû faire usage, voilà, de ces fameuses grenades lacrymogènes pour pouvoir s'extraire de ce bâtiment afin de ne pas eux-mêmes subir un lynchage. Lorsque vous êtes à 12 fonctionnaires de police dans un bâtiment avec 300 personnes éméchées, il est bien évidemment très compliqué de procéder à des interpellations sans soi-même être victime de violence.
Propos recueillis par Julien Fautra pour RTL. Les 12 policiers agressés ont décidé de porter plainte. Et la préfecture invite ce matin les fêtards également à se faire dépister par crainte d'un cluster géant. Un participant au moins était en effet positif au Covid-19. En bref, une policière gravement blessée cette nuit aux Ulis dans l'Essonne. Âgée de 51 ans, elle a été percutée par un chauffard alors qu'elle intervenait avec ses collègues dans un camp des gens du voyage. Elle souffre d'une fracture du bassin. Elle a été opérée dans la nuit. Elle est ce matin hors de danger. Trois personnes qui se trouvaient dans une autre voiture ont été interpellées et placées en garde à vue. Un chiffre qui interpelle ce matin, le nombre actuel de SDF en France tournerait autour de 300 000. C'est ce qu'affirme le délégué général de la Fondation Abbé Pierre dans les colonnes du journal du dimanche. Ce serait deux fois plus qu'en 2012. Christophe Robert redoute notamment la reprise des expulsions à partir du 1er avril prochain. Situation économique et sociale dégradée, mesures sanitaires contestées. Quel horizon dessiné pour les prochaines semaines, voire les prochains mois? Eh bien, nous aurons l'avis du président du Sénat, Benjamin Sportouche. Bonjour.
Bonjour Yann. Bonjour à tous.
Gérard Larcher, qui fait figure de sage, sera l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI à partir de midi.
Oui, soyons clairs, Gérard Larcher, c'est l'une des rares voix qui font autorité aujourd'hui chez les Républicains, un parti qui se cherche toujours une ligne et un leader incontesté. D'où l'intérêt d'entendre le président du Sénat, hein, qui manie toujours la modération, vous l'avez dit, mais qui pour autant ne ménage pas le président de la République, Emmanuel Macron, qui selon lui gouverne trop seul. Alors quel message, voire quelle mise en garde va-t-il lui adresser aujourd'hui en tant que deuxième personnage de l'État? Il fait figure de contre-pouvoir et il aime d'ailleurs le rappeler. Et en même temps, en ces temps sombres, est-ce le moment pour s'opposer? L'unité nationale est derrière nous, n'était-ce pas ce qu'attendaient les Français vraiment dans ces moments-là? Et puis la droite aurait-elle vraiment fait mieux face au Covid-19? Les Français en doutent, si on en croit les sondages. Alors on posera la question à Gérard Larcher. Puis j'attends aussi, chers auditeurs, toutes vos questions sur RTL.fr. Je vous dis à tout à l'heure, midi.
Merci beaucoup Benjamin Sportouche. Aux États-Unis, quelques affrontements cette nuit à Washington entre manifestants pro et anti-Trump. Les soutiens du président sortant étaient près de 10 000 à défiler dans la capitale américaine. La police a procédé à une vingtaine d'arrestations. Une pause dans ce journal de 10 heures, puis nous ouvrons le dossier des violences faites aux femmes dans le sport. À tout de suite.
RTL Matin.
RTL, le 10 heures avec Yann Boucherie.
10 heures et 8 minutes, il y a eu le patinage et l'équitation. C'est désormais le judo tricolore qui est secoué depuis quelques semaines par des révélations d'abus sexuels. Un ex-cadre de la Fédération française, par exemple, entraîneur dans le Nord, est soupçonné de plusieurs agressions, a été suspendu. Parmi les jeunes filles qui ont dénoncé les violences physiques et morales dont elles ont été victimes, même dans un passé lointain, il y a Marie. Elle a accepté de témoigner. Isabelle Langer, vous l'avez rencontrée.
Oui, Marie a 18 ans, est en terminale, quand au cours d'un stage régional en 2001, un entraîneur s'introduit un soir dans son lit. Il ne la touchera pas, mais le mal est fait.
C'est un entraîneur qui avait 11 ans plus que moi. Je pense que dans aucun cas, il devait s'introduire dans mon lit. Et que des fois, je fais le parallèle. Je me dis, si c'était un voyage scolaire et qu'un professeur de mathématiques s'introduisait dans le lit d'un élève qu'il ait 18 ans et demi ou pas, j'espère qu'il y aurait des sanctions et que tout le monde trouverait ça choquant.
Quand elle dénonce les faits un an et demi plus tard, Marie est d'abord suspendue 10 jours de son pôle d'entraînement avant d'en être définitivement exclue. Son entraîneur, à qui elle s'est confiée, reçoit lui un blâme pour diffamation. Quant au prédateur qui s'est introduit dans son lit, il lui est signifié qu'il doit mieux organiser le logement des stagiaires à l'avenir. Autant dire que 19 ans plus tard, Marie est toujours en colère.
Quand j'entends que la fédération me remercie d'avoir brisé le silence, moi le silence je l'ai brisé il y a 18 ans et l'entraîneur n'a jamais été sanctionné et moi ça a eu pour conséquence de me faire arrêter ma carrière en tout cas qui j'espérais aurait pu être un petit peu de haut niveau à cette époque.
Si Marie s'exprime aujourd'hui, c'est parce qu'elle espère que son témoignage va permettre à d'autres judokas qui ont été abusés sexuellement par leur entraîneur de libérer enfin leur parole.
Et pour prolonger ce dossier, Isabelle Langer recevra ce soir sur RTL le président de la Fédération française de judo, Jean-Luc Rouget. Cette semaine, dans un communiqué, il s'est engagé à accompagner les victimes pour éradiquer ce fléau. Rendez-vous à 19h30 dans On refait le sport, en partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France. Le sport, version positive cette fois, avec la très belle victoire de l'équipe de France de football hier soir au Portugal. Les Bleus se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Nations à l'automne prochain en s'imposant 1-0 grâce à un but de N'Golo Kanté. Le moral est remonté 4 jours après la défaite 2-0 devant la Finlande. Philippe Sanfourche, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce succès à Lisbonne.
Oui, plus qu'une victoire, c'est la validation d'une méthode. Didier Deschamps s'était accordé 3 mois depuis la rentrée, 3 rassemblements pour mener de front la Ligue des Nations et un travail de régénération de son équipe. Nouvelle tactique, nouveaux joueurs ou retour d'anciens comme Adrien Rabiot, rayonnant hier soir à Lisbonne.
J'ai pris du plaisir, j'ai essayé de jouer, d'être serein comme je le fais d'habitude, de jouer simple. Je suis vraiment content et j'ai pris du plaisir.
L'Euro est maintenant dans toutes les têtes avec une équipe basée sur un socle de champions du monde mais en perpétuelle mutation. Presnel Kimpembe s'installe en défense, en attaque Kingsley Coman et Anthony Martial s'impose au point de faire bouger les lignes. Didier Deschamps ne cache pas qu'Olivier Giroud, remplaçant hier, est désormais menacé.
Il traverse une période difficile sur le plan psychologique et puis physique. J'oublie pas tout ce qu'il a fait, mais à un moment, je fais des choix parce que je pense que c'est mieux pour l'équipe de France par rapport à ce type de match.
Du sang neuf, dans le respect des valeurs qui ont mené au titre de champion du monde, la formule Didier Deschamps semble toujours efficace.
Philippe Sanfourche, dans le même groupe, la Suède a dominé la Croatie 2-1 hier. Les Suédois, prochains adversaires des Bleus, mardi à Paris. Cette fois, Kylian Mbappé sera rétabli. Peut-être un 7e titre de champion du monde pour Lewis Hamilton. Aujourd'hui, au Grand Prix de Formule 1 de Turquie, il partira en 3e ligne et c'est le Canadien Lance Stroll qui a réalisé la pole position. Départ tout à l'heure à 11h10 sur le circuit d'Istanbul. On termine avec les courses ce dimanche à Auteuil. Les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 9, le 3, le 4, le 5, le 12, le 10, le 7 et la dernière minute, le numéro 4, Bitong Emery. RTL est 10h et presque 13 minutes. C'est fini pour l'info. Bonjour la musique, mon cher Éric Jean-Jean.
Comment ça va, Yann?
Pas mal du tout.
J'ai l'impression que les infos sont moins pires ou c'est juste que j'étais de meilleure humeur ce matin?
Oui, je pense que vous êtes de meilleure humeur.
Alors, mon ami, 11h.
À tout à l'heure. Ciao.